Tu lis quoi, toi? Vous lisez quoi, vous? Nous lisons quoi, nous? On lit quoi, nous? On lit quoi, nous? On lit quoi, nous? L'émission!
Est-il possible de tricoter des chaussettes, puis de fuguer la seconde d'après? Je venais de le faire, alors je suppose que ça l'est. C'est dans mes capacités, et mes capacités sont infinies. Il me semble d'ailleurs que savoir tricoter des chaussettes représente quasiment un exploit pour une fille de 17 ans. Je sais également coudre, repriser, broder, semer, planter, cuisiner, laver, récurer. Bref, à peu près tout, sauf m'amuser. Je ne sais pas non plus comment se porte un sac à main. J'ignore cela. Je les regarde lorsque je me promène en ville. Je vois toutes les filles de mon âge avec leurs sacs coincés dans le creux du coude, comme si c'était un prolongement naturel de leur corps ou de leur personnalité. Elles sont légères et aériennes. Il y a quelques années, je me suis entraîné avec un sac de course. J'ai fait des allers et retours studieux entre ma chambre et la cuisine pour voir ce que ça faisait. Je n'y suis pas arrivé. Je me suis senti ridicule. Maman m'a ensuite appelé pour que je descende au poulailler. En ces lieux, je suis la reine. Je porte le panier à eux à merveille. Je n'en ai jamais fait tomber un seul. Chaque matin, c'est une gloire silencieuse. C'est la mienne, ma petite gloire silencieuse. Lorsque Saul a acheté nos tickets de bus, j'ai murmuré « Seigneur, donne-nous du temps pour réfléchir. » Saul s'est tourné vers moi et je crois qu'il a saisi entre ses bras mon sourire malheureux et mes yeux apeurés, puis il a soufflé dessus pour les renvoyer au vent. Le chauffeur du bus, en passant la première, a chantonné « En avant, Chicago !» Et Saul et moi avons fermé les yeux en nous serrant les mains. Les mots de Marie Chartres dans « L'âge des possibles » seront donc cette introduction pour notre grand retour.
Et oui, nous revoilà.
Wouhou ! Bonjour Véro.
Bonjour Simon.
Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver à l'antenne. Ça fait 6-7 mois qu'on n'a pas eu d'émission. En tout cas, c'est le grand retour de l'émission On lit quoi nous, et nous sommes vraiment très très contents de vous retrouver pour parler de littérature jeunesse, évidemment. Alors, on reparlera de L'âge des possibles de Marie Chartres, qui est l'un de nos coups de cœur des romans de cette rentrée littéraire pour adolescents. Mais bien avant, nous avons plein de choses à présenter, évidemment. On a accumulé des livres et des livres.
Bah oui,
alors, on vous a fait une petite sélection, des tout petits jusqu'aux plus grands, des albums, des documentaires, des livres qui font réfléchir, des livres qui font rire. Comme d'habitude.
Ben voilà, ça, ça n'a pas changé.
Plein de livres. Et puis, comme d'habitude également, nous allons commencer en musique avec un groupe qui nous vient à la fois de Suède et de France qui s'appelle Sota Salta. Et on écoute tout de suite « J'aime ça ».
Les cafards en purée, les crapauds en gelée. J'aime. Les bananes faisandées, les araignées sucrées, les dictates décongelées, les crottes de nez glacées. J'aime ça, oh oui j'aime ça, j'aime ça. Oh oui j'aime ça, oh oui j'aime ça, j'aime ça. Oh oui j'aime ça tellement. J'aime.
Et t'aimes les escargots panés?
J'aime ça. Ah oui, j'aime ça, j'aime ça. Ah oui, j'aime ça. Ah oui, j'aime ça, j'aime ça. Ah oui, j'aime ça tellement. J'aime. J'y peux rien, c'est bien plus fort que moi, rien il fait. On a tout essayé, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Oui, je comprends, c'est pas très ragoûtant. Ma maman s'y est cassé les dents, répugnant, écœurant, dégoûtant. J'aime. Ah oui, j'aime ça tellement.
Et nous aussi tellement.
Bon, je vais pas.
Elles déménagent. Hein.
Ah, elles sont super. C'est Elsa Birger et Linda Edzio. Je sais pas, excusez-moi, elle est suédoise. Qui forment donc toutes les deux Sota Salta. C'est un duo absolument explosif qui met une patate d'enfer. Elles avaient déjà fait un premier spectacle qui s'appelait Comment ça va sur la Terre. Et elles reviennent avec un deuxième spectacle et donc CD comme C'est étrange, dont on a écouté tout de suite un des morceaux phares qui s'appelle J'aime ça. Donc c'est deux musiciennes hein, qui sont... alors Elsa Birger, elle est d'abord chanteuse, mais aussi trapéziste, contorsionniste.
Oui. L'un n'empêche pas l'autre.
Exactement. Et Linda Edzio, elle est percussionniste, compositrice, chanteuse et suédoise. Et je dis suédoise parce que c'est important, puisque en fait, elle chante en français et en suédois.
D'accord, et dans l'album.
Dans l'album, c'est-à-dire qu'elle est partie vraiment en français, d'autant en suédoise. On verra dans un autre morceau. En tout cas, ça fait du bien, je trouve que ça fait rire.
Ça arrive.
Il y a un petit côté surréaliste. Et puis, elle joue beaucoup avec des vocalistes, des doubles voix qui se répondent.
Il y avait de l'eau à un moment.
Voilà, il y a plein de sons rajoutés. Il y a des fois des petits vibraphones, des fois des petites cloches. Enfin, c'est vraiment un plaisir de les écouter, un plaisir de les voir également. Donc, je vous incite à découvrir leur spectacle et à découvrir leur disque qui s'appelle Comme c'est étrange, dont on a écouté le premier extrait. J'aime ça. On en écoutera d'autres, évidemment, dans l'émission. Oui. On parle de livres ?
Oui.
Ça vous a pas manqué ?
Les livres ?
Oui.
Non, ça m'a pas manqué parce que j'ai fait mes provisions. Je fais toujours mes provisions, moi.
Bon, en tout cas, la bonne nouvelle du moment, c'est quand même que les gens reviennent dans les librairies et les bibliothèques. On sent quand même que les livres ont largement manqué à tout le monde. Donc, on est revenu vers l'essentiel. On peut espérer que ça n'ira que mieux avec la situation.
Bien sûr.
Qui va bien sûr s'améliorer, n'est-ce pas On va faire ça.
Tout à fait.
Allez, on commence à parler de livres pour les tout petits. Et je vous ai choisi deux albums pour les plus jeunes. Deux livres très graphiques qui sont deux coups de cœur. Le premier s'appelle Au contraire de Bastien.
Contraire.
Exactement. Comme c'est parfait. C'est publié chez un éditeur qu'on aime beaucoup, c'est-à-dire c'est Albin Michel Jeunesse, mais la collection Trapèze à l'intérieur toujours. de cette édition-là.
Cette collection, elle balaye tous les publics. Hein.
Exactement. Par contre, il y a toujours un rapport au graphisme et un rapport à l'image qui est extrêmement fort. Et Bastien Contraire, on le connaissait déjà pour des ouvrages comme Les Intrus. Il joue beaucoup avec les formes, avec un graphisme très épuré, et puis souvent une ou deux couleurs seulement. Et bien là, il s'est amusé à faire un livre sur les contraires avec, vous savez, une petite feuille calque, voilà exactement, une petite feuille transparente sur laquelle est imprimée une petite forme. Et cette forme, en fait, qui va se basculer de la page de droite à la page de gauche, forcément va découvrir ou recouvrir les pages en dessous, ce qui fait qu'on va pouvoir travailler sur les contraires. Ça commence par une maison, d'un côté c'est fermé, on voit bien que la porte est complètement fermée, de l'autre c'est ouvert. Quand on bouge le calque, hop, à gauche ça devient fermé, à droite ça devient ouvert. On a sur la deuxième page un cochon, à gauche il est propre, à droite il est sale. Pareil, quand on veut le basculer. Et quand on regarde le calque, en fait, on n'a que le cochon tout rose.
Voilà. Donc
c'est vraiment les images qui sont sur le papier, en fait, du coup, qui vont donner toute la forme.
Ça fait un peu comme Patrick George, là, ce qu'il avait fait.
Un peu dans cette époque-là, effectivement.
Qui est intéressant, donne un mouvement, mais très épuré, quoi.
Voilà. Donc, je trouve que c'était une façon très originale de voir les contraires, et puis aussi d'initier les enfants au graphisme.
Puis on est proche des illusions d'optique, en plus. Là, c'est vraiment très ludique.
Ouais, tout à fait. Il y a un côté, évidemment, très, très ludique. Que je voulais mettre en avant et puis mettre en avant encore cette magnifique collection qui s'appelle Trapèze chez Albin Michel. On poursuit avec un autre livre très graphique et absolument superbe. C'est chez Actes Sud Junior. L'autrice s'appelle Amandine Laprin. Amandine Laprin, on l'a déjà vue dans plusieurs albums, notamment chez Actes Sud. Et là, elle revient avec vraiment un livre pour les plus jeunes. Ce livre s'appelle Dans ma main. Et c'est à la fois un livre à compter. C'est aussi un livre en découpe. Et puis, c'est également un petit imagier. Donc, sur la première page, nous avons une petite main Cette main, elle est sur un papier découpé.
Puis on a l'impression que c'est un enfant qui a dessiné sa main comme on faisait.
C'est exactement ça. Donc c'est comme s'il avait dessiné, puis après il avait découpé la feuille pour y poser sa main. Donc derrière cette main, il y a une page, et dans cette page, il y a une pomme. Donc la pomme est comme... C'est comme si elle était sur la main. Voilà, exactement. Et le texte, elle vient à gauche avec un texte très épuré qui dit pour la première page, « Une pomme tient dans ma main. » On tourne la page... La pomme devient croquée, un peu acide. J'en ai des frissons sur la langue, pas toi ? Deux plumes, deux jets, tiennent dans ma main. On retrouve la main découpée et les deux plumes dans la main de l'enfant. On tourne la page. Tu connais l'histoire du jet qui se faisait passer pour un paon ?
Non.
Trois cailloux tiennent dans ma main. Ainsi, je retrouverai mon chemin. Et ainsi de suite, comme ça, on va compter avec l'enfant. On va jouer aussi avec l'enfant, on va jouer à l'accumulation, puisque à chaque fois, ce sont de nouvelles choses qui se trouvent dans la main de l'enfant. Et on imagine très bien l'enfant s'amuser à ce jeu de prendre un objet, puis deux, puis trois, puis quatre, et puis s'inventer aussi les petites histoires qui vont avec.
Voilà, à chaque fois, il y a une petite histoire.
C'est ça, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'un livre à compter, c'est aussi un livre à regarder, à explorer, et puis à s'inventer tout un monde avec lui. Il faut aussi vraiment souligner le travail d'Amandine Laprin, qui est absolument superbe, tout en délicatesse.
Belle couleur aussi.
Voilà, de beaux aplats sur les pages où il y a la main. Et puis, à côté de ça, un très beau... des pages presque naturalistes, en fait, quand il s'agit de décrire les animaux.
Oui, tout à fait.
Et puis, une petite chute, en plus, à la fin, qui est absolument superbe.
On l'a dit pas.
On l'a dit pas. La découvrir, bien sûr. Voilà, un très bel album qui correspond également pour les tout-petits, mais pour les plus grands aussi. Mmh. Allez, on poursuit avec... vous avez trouvé une petite...
Un joli petit
ouvrage, voilà. Tout à fait. Je n'ai rien dit.
Un joli livre de taille moyenne qui s'appelle « Le livre à fleurs, une fleur par mois ». Donc, les illustrations sont de Christophe Merlin. Sur ce livre, il se fait appeler Christophe Merlin. C'est Merlin. Autrement que...
Quelques albums qu'il se fait appeler Christophe Merlin.
Oui, ça y est, il assume son prénom
tout
maintenant.
À fait.
Et donc, c'est la conception de l'album et le texte par Agathe Henning, qui est aussi l'éditrice, si je comprends bien. C'est les éditions A, donc A-H, point d'exclamation. Je suppose que c'est Agathe Henning, édition.
Tout à fait.
Ce livre, donc il y a 12 tableaux, comme 12 mois de l'année. Ce sont des devinettes illustrées par des dessins très très beaux. Après, enfin, la réponse est dans le dessin. Donc, je vais aller à octobre tout de suite puisque on inaugure ce mois quand même. C'est une belle façon d'inaugurer ce mois. Et si je vous dis de rose, mauve à bleu, je peux changer de couleur grâce à l'acidité du sol dans lequel je pousse. Qui suis-je? Il y en a beaucoup en Bretagne, mais il y en a ici aussi. Des grosses têtes de fleurs, de petites fleurs comme ça.
Il faut que je donne la réponse, en fait.
Ah ben oui, si possible.
D'accord. Alors j'espère que vous jouez
vous
chez vous.
Aussi.
Et vous nous appelez donc au 02 43 53.
Ça n'est pas la réponse, monsieur Simon. C'est pas ça la réponse.
Vous voulez faire gagner un livre,
mais bon. Et si je vous montre la magnifique illustration... Oups, là, je vais y arriver,
Ah, ce sont des hortensias.
Voilà, bien. Vous en avez tous vu.
Et je ne dis pas du tout ça parce que c'était marqué en haut de la page.
Non, pas du tout. Alors, je vous le demande en latin, peut-être, le nom.
Hortensia.
Non, pas du tout. Je ne le dis pas non plus, parce que c'est trop compliqué. Par contre, je confirme, puisqu'on est des pros des hortensias, que vous pouvez avoir le même hortensia bleu, vous changez l'acidité du sol, vous amenez du sol avec de l'ardoise ou des choses comme ça.
Oui, j'avais lu ça. Là.
Et ça change de couleur.
Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas la même couleur, selon la région où ils sont.
Voilà, c'est le caméléon des fleurs. Donc voilà pour octobre, mais on va aller en avril, ce mois qu'on a passé tous chez nous, là, attendu toute l'année au Japon, ma floraison spectaculaire annonce avec joie le printemps. Qui suis-je ?
Le cerisier.
La fleur de cerisier. Alors, je vous laisse voir les illustrations, elles sont toutes comme ça aussi belles. En plus, c'est une espèce de triptyque qui se déplie pour donner la réponse, pleine page, c'est magnifique.
C'est vraiment chouette de voir Christophe Merlin dans
ce
travail,
registre.
Oui, parce qu'on le connaît dans la fiction quasiment. Enfin,
oui,
beaucoup plus.
Oui. On retrouve de temps en temps ces petites couleurs briques, là, très intenses parfois. Mais c'est de la botanique ici, vraiment ici.
Un petit côté naturaliste, c'est, vraiment très beau.
C'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Donc chaque mois a sa fleur, avec ses petits insectes qui volaient autour. C'est le livre à fleurs, une fleur par mois. C'est trop beau, c'est délicat, ça fait du bien.
Bah, l'édition la remplit son... Parce que dans la présentation de la maison...
aussi,
mais dans la présentation de la maison d'édition, ils disent « Nous privilégions une production d'ouvrages originaux et haut de gamme élégants. »
C'est exactement ça.
C'est exactement,
exactement
ça.
Exactement ça, la classe, ce bouquin.
Non, non, il est très très beau.
Et c'est un petit éditeur. Il y avait eu les becs, je ne sais pas si vous
souvenez... Je crois que c'est du Calvados, en fait.
Ah oui, Agathénie. Vous vous souvenez pas des becs, là ? Des becs, hein, la tête, on dépliait aussi, on trouvait l'oiseau que c'était.
C'était les Fanny Pageot, ça. C'est à l'atelier du poisson soluble, non ?
Non.
Ah non, c'était pas... ah non, c'était les narines.
Aux éditions...
Ah oui, ah.
Ah, ah bah dis donc.
En tout cas, une belle surprise.
Oui, tout à fait.
Vous continuez, je vous gardais la main avec un ovni.
Oui. Ben, un petit ovni. Un ovni, alors moi je l'ai mis dans une petite pochette parce que, mais un jour je...
Ça c'est votre côté bibliothécaire, vous aimez bien mettre dans des petites pochettes.
Ben oui, mais on va lâcher les pochettes un jour, hop, je jette la pochette, voilà.
Vous verriez comment elle a jeté la pochette, alors pour une bibliothécaire,
mais non,
moi,
mais je
trouve ça
plus
presque...
les pochettes, là, c'est bon, le plastique, c'est fantastique, mais voilà, bref. Donc L'échappée, Adèle Verlinden. Et nous sommes aux éditions du Trénailleur, j'ai vu qu'ils étaient de Nantes, et c'est une proposition de livre-affiche. Alors, je vous avouerai, comme dans tout ce que vous me proposez régulièrement, Monsieur Simon, que de temps en temps, je fais semblant de ne pas voir les livres et de les glisser, pour certains, sous les meubles, pour ne pas avoir à les prendre, et que vous me dites après... Mais pourquoi tu n'as pas pris cela, Véronique ? Enfin bon, bref, voilà. Et donc, mais celui-là, je l'ai pris parce que vous n'avez même pas forcé la main, puisque j'adore les couleurs, j'adore le concept, j'adore l'ambiance, j'adore ce petit chat qui se balade et qui au fil des pages, enfin, c'est même pas des pages, hein, parce que ça va se déplier comme une affiche, donc vous pouvez l'afficher aussi dans votre bureau de bibliothécaire ou dans votre chambre, enfin, peu importe. Mais en plus, le poster... Alors, il y a une découpe au milieu aussi, mais l'histoire se fait sur 7 pages, comme ça. Et 7, le chiffre 7. Et on arrive dans un pays de chats, où il y a des chats un peu partout. Et c'est réjouissant, c'est stimulant. Je ne sais pas quoi dire de ce livre.
Il faut quand même dire qu'il n'y a pas de texte.
Il n'y a pas de texte.
Donc c'est une narration qui ne se passe que par l'image. Et qui se passe à la fois effectivement par les pages qu'on déplie. Mais comme on les déplie et pas qu'on les ouvre, du coup, ça devient de plus en plus grand. Donc, on peut se perdre parmi ce paysage. Mais,
exactement.
Mais on peut aussi s'y retrouver.
Rien que ça m'a séduit. Alors, parce que je ne sais pas, qu'est-ce que c'est ça ? C'est du...
Alors, linogravure, je pense.
Voilà, linogravure. Ça veut dire quoi, linogravure ? C'est... Ah, zut ! Vous me répondrez à la prochaine émission, monsieur Simon.
Non, on va vous répondre
tout à l'heure. D'accord.
Je vais faire une petite recherche.
Non, mais c'est vraiment remarquable. C'est ça qui donne cet effet-là. Alors, j'ai du mal à vous... Parce que c'est sombre. C'est très sombre et en même temps, c'est lumineux. Alors, je ne sais pas comment dire.
Bah, là, oui, on est proche de l'ensemble des techniques de gravure. Donc, forcément, il y a ce rapport à la matière, en fait, qui
oui,
est vraiment présente.
C'est ça.
Donc
c'est
la linogravure, c'est une technique de gravure en taille d'épargne.
On enlève les blancs. Ah oui, d'épargne, d'accord.
On enlève les blancs et l'encre se pose sur les parties non retirées, donc en relief. Voilà. C'est proche de la gravure sur bois.
D'accord. Eh bien, c'est chouette. Franchement, c'est chouette. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression de tenir le chat dans ma main et toutes les montagnes dans ma main.
Mais de toute façon, cet éditeur-là, qui est une association, hein, l'association Trénailleur, c'est une asso qui travaille à la fois sur de la création imprimée et de la création scénique. Donc ils sont entre le spectacle.
Ah ben, c'est ça.
Et c'est pour ça que là, on a un objet imprimé, mais qui est aussi bien une affiche, finalement, qu'un ouvrage, qui a plusieurs fonctions. Mais ça va avec la mentalité de cette association qui est effectivement basée à Nantes.
Trénailleur, ça me rappelle une chanson de Bill de Rem.
Peut-être.
Tirailleur ? Vous ne connaissez pas ça, c'est pas votre époque, monsieur Simon. C'est pas grave, mais Trénailleur, c'est bien trouvé.
En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir à la fois ce petit éditeur et puis le travail aussi d'Adèle Verlinden qu'on retrouve chez d'autres éditeurs plus importants. Donc c'est vraiment quelqu'un à suivre. C'est à vous, c'est à moi. Oh, c'est à moi. C'est à moi. Avec un album, un petit chouchou.
Ah oui.
Un petit chouchou.
Ah oui, ben vous aviez déjà parlé de celui d'avant.
Oui, tout à fait. Ça, c'est un petit chouchou parce que c'est un livre, en fait, que j'attendais avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'attente. Parce que quand on a une autrice chouchou et une autre autrice chouchou qui décide de faire un livre ensemble, forcément,
ça fait plein de chouchous partout.
C'est trop chouchou. Ah ouais. Donc, pour résumer un peu l'histoire, nous avons à ma gauche Lolita Séchant. Lolita Séchant, elle a fait des BD, elle a fait Les Bombes de Sapa, qui est absolument génial. Et puis, elle a fait surtout, elle a créé l'univers de la famille Biloba. Biloba, c'est cette petite taupe, en fait, qu'on va retrouver donc, dans cette histoire. Elle a fait deux albums avec ce personnage-là qui sont absolument géniaux. Et à ma droite, Camille Jourdi. Camille Jourdi, qu'on connaît plutôt pour ses bandes dessinées. Sa dernière en date, c'est Les Merveilles.
Je suis très, très
Les Vermeilles, pardon.
Les Vermeilles.
Les Vermeilles, quelle merveille.
Quel dessin.
Voilà, c'est deux personnes avec des entités hyper fortes, des univers très, très forts. D'un côté, le noir et blanc presque dépouillé, très fin de Lolita Séchant. À côté de ça, les couleurs pastels de Camille Jourdi, puis cet univers onirique qui est absolument magnifique. Eh bien, elles ont décidé de faire un album ensemble. Et quelle bonne idée. En gros, on prend Biloba, qui a choisi, qui s'amuse avec un des personnages de Camille Jourdi des Vermeilles, qui est une espèce de la petite fille aux petites oreilles de chat. Mmh. Et les deux décident de faire une partie de cache-cache. C'est tout simple. Donc, on va les suivre dans cette partie de cache-cache. Et là, c'est un plaisir, puisque on a tous les éléments du jeu enfantin qui sont décrits. Celle qui part se cacher, donc c'est la petite fille aux oreilles de chat qui va essayer de trouver la meilleure cachette. Donc à chaque fois, elle se met sous les draps. Mais hop, sous les draps, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Mémé Molle. Mémé Molle, c'est une vieille qui fait comme ça, je vais te faire un gros béco. Voilà.
Ça qui est molle quand même.
Voilà. Donc,
puis en ce moment, les gros bécos à Mémé Molle.
Un gros béco qui pique. Voilà. Donc forcément, bah, la petite fille va s'en aller. Puis après, elle va dans la cabane. Là, dans la cabane, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la licorne, enfin le poney licorne, là, qui s'est encore en train de jouer aux cartes avec les hérissons qui vont le traiter de tricheur et donc qui s'embrouillent. Et évidemment, elle sent que c'est pas le moment de les embêter. Ensuite, il y a les deux sœurs de Biloba qui vont lui dire « Ah, mais on te voit, là, on voit tes oreilles qui déplacent. » et ainsi de suite, comme ça. Donc finalement, elle arrive, elle est quasiment pas cachée. Quand Biloba débarque, il va refaire tout le même chemin. Il la suit pratiquement à la trace. Et on retrouve donc les personnages qu'on a découverts le premier passage. Et puis finalement, la chute, en plus, elle est absolument superbe. Je ne vous la raconte pas. Alors la narration, elle est assez chouette. Elle est comme une bande dessinée, mais en même temps très accessible aux enfants, aux plus jeunes enfants, ouais. Je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une décomposition en cases, mais qui n'est pas dans un gaufrier, qui est plutôt en fait à l'italienne, donc avec plusieurs petites images qui se superposent. L'univers de fond, c'est plutôt celui de Camille Jourdi, ouais. Donc avec des tons pastels, sur lequel Lolita Séchant est venue placer ses personnages. Le texte est absolument génial. Les échanges de paroles, les dialogues sont super. Enfin, voilà. Je crois que vous avez compris que j'ai adoré ce livre-là. Caché ou pas, j'arrive. C'est un vrai coup de cœur de Lolita Séchant et Camille Jourdi. Et c'est publié chez Actes Sud BD.
Super.
Voilà, c'était voilà. Vous avez aussi un petit coup de cœur peut-être à nous présenter.
Oui,
on continue, allez.
Oui,
on reste dans l'humour et puis dans le côté un peu... Non ?
Onirique, ouais. Balade ouais. Mais Va chercher le pain de Jean-Baptiste Drouot aux 400 coups. Alors les 400 coups, ça fait longtemps qu'on les connaît, très longtemps. Moi j'ai toujours bien aimé, hein, voilà, il y avait plein de choses audacieuses comme ils savent le
les
faire
québécois.
Au Québec. Sauf que là, ça fait plusieurs titres, hein, où vraiment là, ça s'élève. Donc, Va chercher le pain, c'est ce petit renard qui a une passion d'ailleurs pour les citrouilles, des potirons, il est amoureux des potirons. Donc, il vit avec sa maman, sa petite sœur, dans une jolie ferme au bord de la mer. Sa maman est assez autoritaire et tout. Elle lui dit, mon chéri, il faut que tu ailles chercher le pain, il n'y en a plus. Donc, elle n'est pas commode, donc il a intérêt d'aller chercher le pain et de le trouver. Et ce que j'aime bien, c'est les petites... Après une petite trotte, ma grand-mère disait ça, une petite trotte. Mais je pense que ça vient du Québec aussi, ces petites expressions.
Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr parce que Jean-Baptiste Drouot, il est
pas du Québec.
Bah, il est français.
Ah bah non,
lui, hein,
j'ai pas regardé. Oui, ben bah, d'accord.
Donc enfin, une petite trotte, moi je dis ça aussi.
Ah, vous dites une petite trotte.
Oui, une petite trotte.
Ah, d'accord.
Bref, une petite trotte là pour y aller, dis donc. Non, dites pas ça.
Ah oui, ça fait une petite trotte.
Ouais, ça fait une petite trotte.
Mais non, mais ça veut dire que enfin, qu'on a marché très longtemps.
Bah oui.
Donc, bon, après sa petite trotte, donc, ne confondons pas, la boulangerie est fermée. Et le pauvre Graham se dit que pour ne pas rentrer bredouille, il va essayer de trouver une autre boulangerie. Et le voilà parti dans le bateau de son cousin qui est marin. Il traverse un golfe, il suit des tempêtes, ils arrivent sur une île déserte. Il est affamé, il va manger. Enfin bref, il va lui arriver...
C'est une épopée qu'il
vit. Une épopée totale, mais complètement dingue. Hein. Il finit par creuser un tunnel à un moment pour s'échapper d'une prison... il est dans des sables mouvants. Enfin voilà, c'est vraiment. Il fait des beaux rêves réconfortants. Alors à quoi rêve-t-il quand, pour se réconforter, il rêve à des potirons? Forcément, mais c'est sa passion.
D'accord.
Ok. Et donc là, il va falloir vraiment qu'il trouve du pain, quoi, parce que là, sinon, ça va mal finir. Donc, je vous donne pas la fin, parce que faut suivre l'épopée. Mais c'est très original. Il y a ce petit, on va dire, renard. Oui, c'est un renard, ils assument. Ce sont des dessins assez simples, hein, des traits assez doux.
Proche de la BD d'ailleurs.
Ouais, c'est proche de la BD, oui, tout à fait. Et on dévore cette épopée, on part avec lui, on oublie le pain évidemment, un petit peu comme Graham hein, quand même. C'est une sorte d'ode aussi à la sérendipité, on dit.
Je vous laisse le dire.
Ah ben ça, c'est comme la linogravure, hein, ça va être difficile. Non, mais c'est rendipité, c'est-à-dire qu'on va... C'est-à-dire que c'est pas avec le nez sur la bougie qu'on a inventé l'électricité, hein, et qu'en allant glaner plein de fleurs à gauche et à droite et d'autres choses que ce qu'on est parti chercher, eh ben, c'est comme ça qu'on émerveille le monde aussi, je pense.
C'est exactement ça.
Voilà.
La conjonction du hasard heureux qui permet aux chercheurs, de faire une découverte inattendue, d'importance ou d'intérêt supérieur à l'objet de sa recherche initiale.
Exactement. Mais on fait tout ça. Il n'y a pas que les chercheurs.
Non, il y a le
renard
aussi.
Heureusement.
Il y a le renard.
Et le renard. Et Graham. Voilà. Et Graham nous a enchantés avec ses rendipités. Alors, moi, j'aime pas ce mot-là, mais j'adore les faits.
En tout cas, c'est très beau.
Pas le mot, il n'est pas beau.
Non, le livre.
Je promets que j'en inventerai un. Donc voilà, merci Monsieur Drouot. Monsieur Drouot, voilà.
Et bravo encore aux éditions 400 coups.
Exactement. Oh ouais, il nous enchante de livre en livre.
J'ai lu un album là, il y a pas très longtemps, absolument hyper fort. Là.
C'est le loup dans la maison.
Mmh. Je pense qu'on en reparlera parce que c'est un album qui mérite d'être présenté. Donc on reparlera des 400 coups évidemment. Vous avez d'autres albums qui font un petit peu réfléchir. Tiens, quand on parle d'albums un petit peu plus sérieux.
Alors réfléchir, je suis d'accord, mais bien sûr réfléchir, mais qui mettent en scène ce thème qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai tellement l'impression d'être inactive, mais je pense que loin d'être la seule qui nous hante aussi de jour en jour, c'est les migrants qui s'éparpillent un peu partout autour de l'Europe. Et là, je vous propose deux livres qui sont très très différents l'un de l'autre, sauf qu'ils abordent le même sujet. Et ce que je trouve remarquable sur Salut les petits amis, donc un livre pour apprendre à compter et à être solidaire de Hollis Kurman et illustration de Barou, chez Rue du Monde, donc Rue du Monde, éditeur très engagé, avec qui propose des très très beaux livres sur des thèmes très graves. Là, il s'adresse à tout petit et il s'agit, alors on dit un imagier pour des images, un livre à compter, on va dire, ça s'appelle un livre à compter, oui, comme on a vu avec la main, dans ma main, un livre pour apprendre à compter et à être solidaire. Donc sous couvert de quelque chose, avec en plus les illustrations de Barou qui sont vraiment très modernes, qui déménagent aussi, enfin qui sont colorées, ça pète un petit peu dans tous les coins. Et donc c'est comment faire quand tout devient inquiétant dans notre village et qu'il nous faut partir. Restons bien ensemble, comptons jusqu'à 10 et bientôt tout ira mieux. Un bateau qui va pouvoir nous aider dans notre grand voyage. Deux mains qui nous mettent à l'abri du danger. Trois repas qui remplissent bien nos petits ventres, quatre lits où nous pouvons dormir au chaud, cinq vœux qui nous donnent de l'espoir, six livres remplis d'images, d'histoires et de mots inconnus. Sept jours déjà, on fête notre première semaine dans ce nouveau pays. Huit cadeaux et plein de surprises pour nous aider et nous faire plaisir. Neuf signes de bienvenue dans notre nouvelle école. Dix joueurs autour du ballon qui nous réunit tous, nos amis et nous. Un de plus et nous serons onze. Une véritable équipe de foot. Voilà, je l'ai lu très vite. Je vous conseille vraiment, parce que ça s'adresse aux tout-petits, plus grands aussi s'ils veulent, mais vraiment aux tout-petits, et de parler d'un tel thème avec une simplicité pareille. Moi, j'ai été vraiment très touchée. Ça m'a bouleversée. Vraiment, je conseille ce livre. C'est quelque chose de nouveau, je trouve, par rapport au public concerné. J'aime pas parler des publics, mais là, j'en parle parce qu'on s'adresse aux tout-petits. Et sous découvert, sous une apparence un peu simple de livre à compter, tout est dit, quoi. C'est énorme. Voilà, donc bravo les amis, c'est magnifique. Je passe immédiatement, je reste dans l'émotion et je passe à Migrant de Issa Watanabe chez La Joie de Lire, éditeur suisse. Issa Watanabe qui est une autrice illustratrice espagnole. Voilà, alors on est sur un album sans texte, on est sur un album absolument bouleversant, ça faisait longtemps. Les migrants, ils sont tous là, ils ont tous des têtes d'animaux. Il y a une girafe, il y a un lièvre, il y a un lion, il y a un bouc, il y a, je sais pas, un toucan, des grands, des petits, des gros, des maigres, des habillés, des non habillés, quelques enfants aussi avec eux.
Anthropomorphes quand même.
Très anthropomorphes, bien sûr, ils sont habillés. Voilà.
À la mode humaine.
Voilà. Et la mort l'essuie. La mort, elle est désemparée. Elle l'essuie elle-même et désemparée. Et de temps en temps, elle est derrière. De temps en temps, elle va devant. De temps en temps, elle est au milieu d'eux. Et c'est le drame parfois. Et à un moment, bon, bah, ils vont perdre des amis. Ça va être vraiment on va même croiser un ours polaire. On pourrait demander ce que ce migrant-là fait avec eux. C'est incroyable, c'est digne de tableaux de grands maîtres, je dirais. J'ai pensé à Jérôme Bosch, je ne sais pas pourquoi, dans la puissance de cette confrontation de couleurs et de noir, comme ça, le fond noir et tout. Une double page sur un bateau sur la mer où c'est rempli de tous ces migrants, c'est absolument dingue, c'est exactement ce que je ressens. Voilà, c'est extraordinaire.
Cette mer qui est sombre, enfin qui est...
Très sombre, ouais. Le bleu marine noir, en dessous, ouais, du noir, au-dessus, juste au-dessus du noir, je veux dire, et qui se termine sur une note d'espoir. La couleur revient un peu dans les arbres, enfin voilà, il y a quelque chose. Mais quelle force, mon Dieu, quelle force. Enfin, c'est... ces deux livres-là soulagent un tout petit peu mon désarroi de ne rien faire.
Non, il y a vraiment de très très beaux livres, hein, sur ce sujet-là.
Tout à fait. Déjà parlé, il y en a beaucoup.
On avait parlé de Fuitigre, on avait parlé de...
Tout à fait. Mais je tiens beaucoup à les amener parce que je pense que c'est... C'est la seule chose que je...
Le Watanabe, là, le migrant de Watanabe, sans texte, mais l'image, elle est tellement forte.
Ouais.
Et un gros travail aussi d'impression, de La Joie de Lire.
Oui,
Les rendus des couleurs, le glacé, le papier glacé, il est ouais, ultra beau, quoi.
Tout à fait, oui. Et puis, mine de rien, il y a beaucoup de couleurs. Même dans le sombre, il y a une palette de sombre. Et ça, c'est vraiment super bien travaillé, quoi.
Vous savez quoi, après ces livres forts, ces livres beaux, il est temps d'une... Je crois que c'est l'heure d'une petite lecture d'un livre coup de cœur, n'est-ce pas ?
Ah bah oui, oui.
Tu t'appelleras Lapin, de Marine Schneider, aux éditions Versant Sud. Personne ne sait exactement quand cette histoire a commencé. C'était sûrement la nuit. En tout cas, personne n'a rien vu. Personne ne l'a vu arriver. Tous les jours, la petite sort ramasser du bois pour le feu, des champignons pour la soupe. Il n'y a personne pour lui dire de rester à l'intérieur, qu'il est trop tôt ou qu'il fait trop froid. Elle s'appelle Belette, elle a 7 ans et elle habite seule. C'est comme ça. Ce matin, Belette a enfilé ses bottes et claqué la porte. 3 pas à gauche, à pieds joints dans la boue, saute-mouton au-dessus du mur en pierre. toboggan raccourci tout droit vers le village. D'habitude, c'est comme ça qu'elle fait. Mais pas aujourd'hui. Ce matin, elle l'a vu. Et elle a cru que c'était la fin du monde. Il n'y avait pas un bruit, à part celui du vent dans les bouleaux. Belette dit toujours que quand on vit toute seule, on ne peut pas avoir peur. Alors elle s'est approchée sur la pointe des pieds. Arrivée aux oreilles, elle s'est penchée. « Tu dors ?» a-t-elle murmuré. L'animal ne lui a pas répondu. « Il doit dormir profondément, se dit-elle. » Elle en a oublié le bois pour le feu, les champignons pour la soupe, et a décidé d'aller réveiller les autres. C'est sûr, il fallait qu'ils voient ça. Évidemment, ils étaient tous ébahis, bouche bée. Aucun d'eux n'avait jamais rien vu d'aussi grand, d'aussi sauvage. « Mais qu'est-ce qu'il fait ici ?» murmura Joseph. « Qu'est-ce qu'il fait chez nous ?» renchérit Paula un peu plus fort. « Firent les autres. Au milieu du village, avant il y avait le terrain de foot, la prairie du papa de Joseph et le champ de betteraves. Maintenant, plus de prairie, plus de champs et même plus de foot. Mais un grand, un énorme, un gigantesque lapin. Puis les parents sont arrivés. Ce lapin était encombrant, peut-être dangereux. Ni une ni deux, ils ont emmené leurs enfants à la maison et fermé la porte à clé. Le silence est tombé sur le village. Le jour se leva, arriva la nuit. La nuit, personne n'attend Belette. Alors elle resta au chevet de son nouvel ami, malgré le froid qui lui piquait les joues. « Tu t'appelleras Lapin, » lui dit-elle. Elle entassa toutes ses couvertures, mais ne parvint même pas à recouvrir l'une de ses pattes. Cette même nuit, les adultes se réunirent et discutèrent des heures durant. Qu'allait-il bien pouvoir faire de ce lapin ? Le matin suivant, comme des chasseurs, ils sortirent de leur tanière. Féroces comme des loups, alertes comme des ours. Un périmètre de sécurité fut installé, Lapin n'était pas le bienvenu au village. Sans plus attendre, tout fut mis en place pour le faire disparaître. Mais Lapin était trop grand pour être caché. Lapin était trop lourd pour être déplacé. Lapin était trop gros pour être enterré. Après des jours et des jours de bataille contre l'animal, qui n'avait pas bougé d'un poil, les adultes s'avouèrent vaincus. Lapin n'irait nulle part. La vie reprit son cours, le temps passa. Lapin faisait partie du paysage. Certains continuaient à le contourner pour traverser le village. D'autres l'escaladaient maintenant. Elliot, Alaska, Joseph, Titus, Paula, tous avaient adopté Lapin, leur animal montagne. Tantôt toboggan, observatoire, tantôt terrain de jeu d'une partie de cache-cache. Ils lui tressaient les poils, lui racontaient des histoires et le réchauffaient avec un feu. Au seuil du lit, Belette ouvrait toujours la fenêtre et criait « Bonjour Lapin !» Avant d'éteindre la lumière, le soir, elle ne manquait jamais de lui dire bonne nuit. Elle lui cueillait des champignons en automne, des baies au printemps. Le panier restait toujours plein. Lapin se réveillerait-il un jour ? Personne ne sait exactement quand cette histoire se termine. C'était sûrement la nuit. En tout cas, personne n'a rien vu. Personne ne l'a vu partir. Un jour, Lapin n'était plus là, tout simplement. De lui, il resta la trace de son corps sur le sol, délimitée par les hautes brindilles. Là où autrefois il était couché, l'herbe ne repousserait plus. Lapin est parti, mais Belette est restée. Sa vie est ici. Elle sort récolter du bois pour le feu et des champignons pour la soupe. Le lundi, elle est invitée pour le goûter chez Titus et Paula. Le papa d'Eliot lui dépose souvent du pain chaud et croquant devant sa porte. Belette adore ça. Lapin n'était pas la fin du monde, finalement. Belette a 8 ans maintenant. Allez, on va envoyer un peu de musique pour se passer tout ça.
Personne ne m'aime, personne. car j'aime les vers de terre. J'aime les grands, les petits, même les tout ramollis. Je les garde dans une boîte en fer. Je leur croque la tête, j'aspire le jus, j'essuie la main sur mon pantalon. Personne ne m'aime, personne ne m'aime, mais les vers de terre c'est tellement bon.
Långa och slippiga, jag har dem i en liten ask. Biter av dem huvudet, suger ut saften, slänger sin skalet bort. Ingen tycker om mig, ingen vill ha mig, men oj vad mask är gott.
C'était donc Les Vers de Terre, deuxième extrait de l'album Comme c'est étrange de Sota Salta. Et là, effectivement, elle chante en suédois.
Mmh.
On en reparle un peu du lapin ?
Ben oui, un peu du lapin après.
Ah ouais. Non, ce livre, vraiment, donc Tu t'appelleras Lapin de Marine Schneider, dont on vient de faire la lecture, publié chez Versant Sud, confirme tout le talent de Marine Schneider. Marine Schneider qu'on connaissait vraiment en tant qu'illustratrice et qui là, en tant qu'autrice illustratrice, prend une dimension. Mmh. Vous avez vu, rien que le texte tout seul fonctionne d'une manière assez impressionnante. Et alors, vous à la radio, là, vous n'avez pas les images, mais vous verriez les illustrations de Marine Schneider, parce que ces illustrations apportent vraiment une autre lecture à l'album. C'est d'une puissance narrative. Pour moi, c'est l'équivalent d'une Kitty Crotter, d'une Mélanie Ruten, même pourquoi pas de Maurice Sindac dans l'imaginaire enfantin,
voilà,
qu'on peut
dans un univers.
Il y a un côté très conte aussi.
Ouais. Oui, tout à fait.
Mais vraiment,
et
c'est
puis,
un
philosophique aussi,
un tout petit album, mais alors qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est puissant, quoi. Donc si vous connaissez pas Marine Schneider, nous on l'avait découvert avec son premier album Hiro, Hiver et Marshmallow.
Ah oui, c'est ça.
Et puis on en avait reparlé avec la trilogie Je suis la mort, Je suis la vie, Je suis
c'est
le clown.
Elle.
C'est elle qui là elle
d'accord.
illustre en fait.
Elle illustre.
Elle illustre une autrice norvégienne, si je ne me trompe pas, parce qu'elle a vécu là-bas, en fait, quelques années.
Mais Versant Sud, c'est en
France. Ils sont belges.
Ah, ils sont belges, ouais, déjà. Ouais. Donc, ils font le pont entre le Grand Nord et nous.
Voilà, mais Marie Schneider, en fait, si, et je crois que maintenant, elle vit à Bruxelles. Donc, il y a vraiment un lien très, très fort. Et elle a fait aussi L'Ours Kintsugi, il n'y a pas très, très longtemps, qui est aussi superbe. Donc, vraiment, c'est une autrice, moi, dont j'admire le talent. Et là, elle prend encore une dimension avec cet album qui est vraiment.
Ouf, ouais,
enfin, j'en ai encore des frissons dans le.
Un auteur à suivre et.
Ouais, bah, de toute façon, on la suit déjà.
Oui, on la suit.
En tout cas, là, je trouve qu'elle rentre directement dans la cour des très grands, quoi.
Ouais, tout à fait.
Donc, je vous invite vraiment à découvrir cet album et aller le chercher en librairie et en bibliothèque. Allez, on continue un petit peu notre parcours. On va monter un petit peu en âge, des albums peut-être pour un petit peu plus grand.
Un peu plus grand, oui, avec ce sujet dont on a parlé encore hier de façon nationale, puisqu'on devrait interdire la présence d'animaux sauvages dans les cirques. Et il y a quand même quelques mois, j'ai découvert Roméo s'en va d'Emmanuel Algan. On est chez Magellan ici, je ne connaissais pas plus que ça. Et compagnie. Moi, j'ai toujours dit aussi. Hein. Et une histoire bouleversante, magnifiquement illustrée aussi, de cette petite fille qui vient régulièrement dans un cirque qui s'est mis à camper pour quelques semaines près de sa maison. Et qui va visiter le lion directement, qui s'appelle Roméo. Elle demande au soigneur quel âge il a. Il a 13 ans. La jeune fille a 13 ans. Et Roméo a 14 ans de plus que toi. Donc, il a 27 ans. Il est déjà bien âgé. Il est fatigué. Il dort beaucoup dans sa cage. Et cette petite fille va s'approcher de Roméo de plus en plus, sans peur. Toute confiance au bout d'un moment. Et elle va lui raconter, c'est ça la subtilité de l'album, elle va lui raconter ce qu'aurait dû être sa vie de lion, puisqu'il n'a jamais connu. Donc au départ, elle pense qu'il est content de vivre sa vie de cirque, parce que ça doit être passionnant, de ville en ville, de faire des numéros et tout. Il lui répond, la vie de cirque est une vie de malheur. Aimerais-tu vivre enfermé, privé de ta famille, d'espace, de soleil? Alors, il n'a pas été élevé en cirque, sa maman a été tuée, sa mère a été tuée, il a été récupéré comme lionceau et dressé pour le cirque. Donc, Roméo, je ne vous dis pas la fin. Je ne vous dis pas la fin, parce qu'elle n'est pas spécialement gay, ce n'est pas le problème. Mais quand même, la petite fille va lui raconter l'Afrique, va lui raconter et va apaiser les derniers jours de Roméo. C'est éblouissant, je dirais. C'est vraiment le sentiment que j'ai d'éblouissement à travers une vie de misère et de tristesse. Enfin, c'est vraiment de douleur. Et ce lion explose. Même après sa mort, hein, je dirais, dans tous les sens du terme, au niveau graphisme, évidemment, et au niveau de sa vie aussi, et de sa mort. C'est magnifique, je vous le conseille, quoi qu'en dise Stéphanie de Monaco.
D'accord.
Ceux qui savent me comprennent.
Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas. Allez, peut-être parler du prochain livre, du coup.
Utopia. Simon Bailly, allez, au monde d'un cran, oui, on y va carrément, puisqu'on est dans la cour des très grands philosophes, hein, Thomas More, qui, sur sa philosophie de l'utopie, hein, j'ai appris que l'île d'Utopia, Utopia, ça veut dire nulle part en grec. Bon.
Utopos, le lieu, en fait.
Oui, bien sûr, monsieur le professeur donc, Simon. D'accord.
J'ai fait grec en plus quand j'étais au collège, donc pour de vrai. Hein.
Moi aussi, mais alors là. Donc un livre de Simon Bailly, d'après Thomas More. Il a des relations,
carrément,
Simon Bailly.
Hein. Carrément.
On est chez l'agrume, hein, avec toute l'acidité pétillante.
Alors l'agrume vient de rentrer quand même, tu as une petite info du coup éditoriale. Ils viennent de rentrer dans le groupe en fait Nathan Cyrus.
L'écurie.
Non, Nathan Cyrus.
D'accord, Nathan Cyrus. Hmm. D'accord.
En fait, ils viennent de rejoindre. Ce qui veut dire qu'ils vont avoir des sous pour faire pour faire leur travail, c'est-à-dire qu'ils gardent la même équipe éditoriale.
Oui, parce qu'il faut pas qu'il
celui qui est à la tête de la grume reste le directeur de collection.
Garde leur ligne. Hein,
mais il va garder, voilà, il va garder ça.
Et donc, ben voilà, il y a toute la théorie de Thomas More mise en scène dans une histoire magnifique avec cet écrivain d'un roi qui devient contestataire et qui décide de fuir, puisque au lieu d'écrire pour le roi, ben, il se met à dire, ben le roi, il se moque un peu de vous, enfin franchement, voilà. Donc il a intérêt de partir parce que ça lui chauffe un peu aux fesses. Et un navigateur va l'emmener dans l'île d'Utopia, où les gens partagent les repas, enfin voilà, où c'est le paradis, où c'est le rêve, où il n'y a pas de guerre évidemment. Et le roi entend parler de ça, il veut attaquer l'île. Et les habitants ne s'affolent absolument pas, même si l'écrivain, lui, est Thomas, ben c'est Thomas More, et vraiment inquiet. Et eux, ils ne s'affolent pas, ils savent très bien parce qu'ils ont, ils, je vous dis que ça, hein, ils ont un grand, une grande force, c'est que l'or sous lequel ils croulent ne les intéresse absolument pas. Voilà.
Est-ce qu'on peut du coup comprendre la pensée de Thomas More grâce à ce livre ?
Complètement.
Pour quelqu'un qui aurait la flemme de lire tout Thomas More, on peut lire juste Utopia de Simon
Bayard. Non, on peut.
Enfin, moi, ça me donne beaucoup plus envie de lire ça.
Ça, ça a mort, c'est, et c'est ce dont on rêve tous quand même. Ça reste hélas une question totale d'actualité.
Utopique. Merci Véro. On va parler un peu de romans maintenant avec une petite sélection de romans pour les plus jeunes et puis pour les un petit peu plus grands aussi. Je commence avec un roman jeunesse, enfin plutôt la réédition de plusieurs petits romans. C'est Gallimard dans la collection Folio Junior qui réédite tous les textes courts de Jean-Claude Mourlevat qui étaient publiés auparavant dans la très très bonne collection Petite Poche de chez Thierry Magnier. Donc toute la série avec l'homme. Voilà, l'homme qui, l'homme a. Donc c'est le folio s'appelle L'homme à l'oreille coupée et autres histoires. Et dans ce petit recueil, on va trouver donc la nouvelle, enfin le texte court L'homme à l'oreille coupée, mais aussi L'homme qui levait les pierres.
Ah oui, il y a les autres.
Et L'homme qui ne possédait rien.
D'accord.
Et puis aussi les trois caramels capitaux qu'il avait aussi publiés dans ses petits textes. Donc j'ai trouvé ça très chouette parce que ça permet d'avoir quatre textes courts dans un petit folio. Donc un format de poche, pas très cher. Donc de découvrir cet auteur formidable qui est Jean-Claude Mourlevat, voilà, dans une collection vraiment accessible, avec une nouvelle couverture, quelques illustrations. Ce sont des textes, moi, que j'adore, hein, qui font partie des premiers textes de la collection La Petite Poche, chez Thierry Magnier.
C'est des textes qui sont proches du conte. Hein.
Bah, notamment, oui, L'homme qui ne possède rien, surtout, cette espèce de conte philosophique du gars qui n'a rien, et puis qui, d'un coup, on lui promet la richesse. Et puis, est-ce que vraiment la richesse, c'est ça qui fait tout ? Enfin, ça rejoint un petit peu, d'ailleurs,
Thomas.
Utopia. Voilà. ou L'homme qui levait les pierres, moi, j'adore cette histoire-là. Non, pas l'homme qui est l'homme à l'oreille coupée. Ça se passe dans une taverne où c'est un gars qui tous les jours en fait raconte une nouvelle histoire. Tout le monde lui dit mais pourquoi tu as l'oreille coupée comme ça ? Et à chaque fois il invente une nouvelle histoire, ce qui fait que même l'aubergiste ne sait pas la réalité. Et jusqu'à sa mort quasiment il va maintenir le secret. Bon, voilà, on retrouve vraiment toute l'écriture de Mourlevat. Donc c'était très bien qu'il le réédite comme ça. On enchaîne avec les un petit peu plus grands, et puis comme on est dans les textes courts...
Ah oui, j'ai hâte de les lire, ceux-là.
Je veux absolument vous parler d'une collection qui vient de sortir chez Nathan. La collection s'appelle « Cours toujours ». Il y a 6 ouvrages qui sont sortis en même temps, avec, attention, vous êtes prêts ? Accrochez-vous bien. Florence Hinkle, Séverine Vidal, Fabrice Collin, Gaëlle Aymond, Rachel Corambly et Vincent Cuvelier pour les 6 premiers titres. Rien que ça.
C'est énorme. C'est Nathan en même temps.
C'est Nathan. Non, mais c'est-à-dire que c'est quand même des auteurs largement reconnus. Les 6 ouvrages sont complètement différents, sur des thématiques complètement différentes. Là, on s'adresse vraiment aux grands ados. Les thématiques, c'est vraiment pour des ados à partir de 14-15 ans. Et le principe, comme le dit le titre de la collection Cours toujours, ce sont des textes courts. C'est-à-dire que ce sont des textes qui font moins de 60 pages, qui sont lus en moins d'une heure et qui s'adressent donc évidemment aux grands lecteurs, puisque les grands lecteurs lisent aussi des textes courts, mais également aux très faibles lecteurs. Et l'idée, c'est de pouvoir finir un livre.
Faibles lecteurs, c'est ceux qui ne tiennent pas debout
Ouais, c'est ça, qui sont un peu faibles sur leurs jambes.
D'accord.
Voilà. Qui n'ont pas assez de force pour tenir
comme
le livre
la
dans leurs
mains.
Voilà. En tout cas, non, c'est vraiment une collection qui répond aussi à une demande qu'on a, nous, des institutions, des lycéens, des collégiens, pour toucher ces non-lecteurs. Et c'est vrai que le principe du texte court est intéressant, d'autant plus que là, on n'est pas dans la nouvelle, on est vraiment dans un roman court et avec ce que ça implique d'intrigue, voilà. Et puis comme c'est fait par des super auteurs, c'est vraiment excellent. Et le petit plus de la collection, quand on achète le livre, on a aussi accès à une appli. Et cette appli, en fait, elle permet d'avoir le texte lu. Alors, c'est pas que par l'auteur, ça peut être par des comédiens. En tout cas. Le texte lu, et ça c'est quand même assez génial aussi, puisque comme le disait très bien Clémentine Beauvais lors d'une interview, la lecture peut aussi passer par ce qu'on écoute. La lecture n'est pas forcément par les yeux, c'est-à-dire on n'est pas obligé de lire les lignes pour lire,
on
peut aussi écouter et lire en même temps. L'imaginaire fonctionnera de la même façon.
Et ça commence à arriver, les textes lus, on en reparlera je pense.
Oui, il y a des collections qui commencent à émerger.
Par rapport à la jeunesse, de grande qualité.
Ouais. Et donc vraiment, voilà, cette collection elle est vraiment très intéressantes. Je vous dis 6 titres en plus. Les 6 titres, moi j'ai lu les 6. Les 6 sont excellents. Il y a vraiment de quoi trouver pour tout le monde. Donc c'était un bel effort à signer.
Je reparle de Nathan parce que j'ai sûrement des préjugés, mais j'étais étonnée que ce soit eux qui fassent ça. J'aurais vu Thierry Magnier faire ce genre de choses et tout. C'est pas la première fois qu'ils se lancent dans. Je trouve ça assez audacieux.
Non, mais Nathan, depuis quelques années, ils font un travail magnifique en termes de littérature, ouais. en roman français
oui,
notamment.
Vrai,
ils publient
ouais.
vraiment ouais, des auteurs de renommée. Et ça, c'est pratiquement que des auteurs maison. Hein. Je crois qu'à part Vincent Cuvelier, tous les autres ont déjà publié chez eux. Donc, non, ils savent très, très faire. Vous vouliez me parler d'un ouvrage, alors rapidement, puisqu'on est en fin d'émission, évidemment.
Et oui, je vais vite, alors que j'ai été très, très lente à le lire, parce que plus j'aime, plus je suis lente. Août 61, Sarah Cohen-Scali. Alors moi, j'avais lu que Max. Hein. Il y avait eu Orphelin 88 sur le même thème. Toujours la guerre, toujours le nazisme.
Et là, Max, si vous ne l'avez pas lu, vraiment, nous demandons de le faire.
Lisez-le, celui-là, parce que la première chose quand même, je suis éblouie par le style et par l'exercice. C'est vraiment une prouesse d'écriture dans ce livre, parce qu'il y a des enchevêtrements.
Ce livre, il s'appelle comment ? Il s'appelle
Août 61, ce qui veut dire
l'année 61.
Mur de Berlin. En langage daté, on va dire. Et c'est l'histoire d'un vieil homme qui est retrouvé de nos jours errant dans la rue à Paris. Il ne reconnaît pas la jeune fille qui s'occupe de lui, qui est auprès de lui, mais qui paraît très très proche. Hein, il se rend compte par contre qu'il est sous l'empire de Hall. Enfin, Hall, il l'appelle Hall, c'est Alzheimer, hein, évidemment, qui va lui jouer des tours de plus en plus terribles. Et pourtant, avec Hall, ressurgit Ben dans la tête de ce vieil homme, et Ben, le petit garçon rescapé des camps de la mort, qui l'a été. C'est lui, petit garçon, et Ben va l'aider à se souvenir de sa vie, de Tuva, son amour d'enfance qu'il a rencontré dans un orphelinat allemand. Tuva, qui est issue d'un Lebensborn, que s'est-il passé ? Qu'est devenu Tuva ? Qui est cette jeune fille qui prend soin de lui avec une bienveillance infinie ? Je ne peux vous raconter l'histoire. Il faut absolument lire ce livre. Il est essentiel. Il est remarquable. Le talent de Sarah Cohen-Scali est remarquable. Hein, ce que je vous disais, la prouesse de construction de son roman m'a impressionnée. Et malgré la densité des histoires qui s'enchevêtrent, on suit passionnément les personnages dans la grande histoire de l'Europe, passant de l'horreur nazie au cauchemar de l'Allemagne de l'Est. Et malgré la dureté et la noirceur des différentes réalités, on garde le fil bien solide qui nous conduit vers la lumière et la vie. Je voulais dire merci madame.
Voilà. Ben merci madame, on va dire pareil. Et moi aussi je voulais dire merci madame, mais une autre madame. Je voulais dire merci à Marie Chartres, vous vous souvenez, c'est les premiers mots que j'ai lus tout à l'heure en introduction de cette émission-là. Et donc Marie Chartres a signé, là il est sorti il y a quelques semaines, L'âge des possibles, aux éditions de l'École des loisirs dans la collection Medium Plus. Et ce texte est d'une beauté et d'une force poétique absolument remarquable. On va suivre trois personnages, Saul, Rachel et Temple. Saul et Rachel appartiennent à une communauté amish. C'est pour ça.
C'est à la mode.
Voilà.
Ce moment.
C'est pour ça que quand je racontais ce que j'ai lu, c'était l'introduction de Rachel
oui,
en fait.
D'accord.
Voilà.
Je comprends mieux sur le jeu.
Exactement.
Sur les œufs.
Et sur le fait qu'elle ne peut pas porter de sac,
bien
compagnie
sûr.
Quoi. Et donc Saul et Rachel ont décidé de fuir. Ils sont partis faire leur Rumspringa. La Rumspringa, en fait, c'est
ouais.
quand les adolescents partent de la communauté pour
bien
aller
sûr.
Voir le monde normal. Et normalement, ils se rendent compte de la folie de ce monde et reviennent la plupart du temps dans la
à
communauté.
À leur valeur.
Voilà. Donc là, Saul et Rachel vont partir. Ils vont à Chicago. En plus, ils sont amoureux, donc avec toute l'énergie amoureuse de leur jeune couple. Et ils vont y rencontrer Temple. Temple, c'est une jeune fille qui vit dans une toute petite ville très très loin, qui part pour la première fois, qui est très très gazanière, qui a peur de tout, et qui part pour la première fois rejoindre sa sœur à Chicago. Et les trois vont vivre une expérience humaine avec d'autres personnages qui vont venir se greffer à ça. C'est beau, c'est fort, c'est tout ce que j'aime dans Marie Chartres en fait, et dans ce roman. Je trouve que c'est vraiment le plus abouti. Donc si vous voulez vraiment passer un moment délicieux avec ces trois personnages, avec plein de thématiques en plus qui reviennent sur la famille, sur la liberté, sur la communauté. Enfin voilà, c'est un texte remarquable.
Et puis c'est un sujet original en littérature jeunesse. Parce
complètement.
Que c'est assez une.
Mais en abordant ce sujet-là, on parle de beaucoup de choses.
Oui.
Voilà. Donc gros coup de cœur sur ce livre, L'âge des possibles de Marie Chartres. C'est déjà la fin de notre émission. Il nous reste juste une bande dessinée quand même
oui,
présentée,
sûr,
comme d'habitude.
Oui.
Vous vous souvenez qu'on avait présenté le premier tome de Lucien, Les mystérieux phénomènes.
Je m'en rappelle.
Eh bien, il y a un deuxième.
Ouais,
il est trop bien. Il est aussi bien que le premier, voire mieux. Donc, ça s'appelle toujours Lucien et les mystérieux phénomènes. Ce tome-là s'appelle Granit Rouge. On retrouve nos amis Delphine Lelay et Alexis Aurélou, au dessin et au scénario. Et c'est un plaisir, ce petit Lucien, de le retrouver. Donc, Lucien, c'est un jeune garçon qui s'intéresse énormément à tout ce qui est paranormal, fantôme, voilà, lui, sorte de détective, sorte de Ghostbuster, en fait, de notre époque. Et là, il part en vacances chez sa cousine. Ils vont normalement faire le carnaval de Douarnenez, mais...
en Bretagne.
Oui,
hein.
À côté de Douarnenez, en fait, il y a une petite île qui est tenue par deux personnes qui ont envie de la faire vivre en faisant des fêtes, des concerts, des choses comme ça. Sauf que systématiquement, depuis quelques mois, il y a des péripéties, et notamment il y a le fantôme de La Fontenelle qui rôderait par là et qui empêche tous les événements de se passer. Donc forcément, s'il y a un fantôme, Lucien, il va y aller. Donc c'est une enquête un peu fantastique. Comme d'habitude, chez Delphine Lelay et Alexis Aurélou, il y a des thématiques fortes qui sont traitées, qui sont celles...
Du vivre ensemble ou...
Évidemment, oui, de l'écologie, du vivre ensemble, de la décroissance aussi, évidemment.
De ralentir aussi.
Ouais,
du ralentissement.
Le ralentir, c'est le titre d'une de leurs BD, n'est-ce pas?
Oui.
Et voilà, donc c'est très très bien fait, c'est un plaisir de les retrouver. C'est encore un tome qui se lit complètement tout seul, on n'est pas obligé d'avoir lu l'autre. Mais franchement, le travail qu'ils réalisent tous les deux.
Ils sont de chez nous.
Et en plus, ils sont de chez nous.
Mais oui, oh,
tout à fait.
Dame.
Tout à fait, ils habitent en Mayenne, donc c'est important de saluer leur travail dans une radio mayennaise avec des commentateurs.
T'as dû faire du local, voilà. Quoi. Il n'y a pas de raison.
Donc voilà. Eh bien, en tout cas, c'est la fin de cette émission. Nous étions vraiment ravis de vous retrouver.
Ah, oui.
Merci beaucoup, Véro.
Merci, monsieur.
C'était l'émission. Alors maintenant, normalement, on se retrouve.
Normalement,
hein, si
oui,
tout va bien.
Bien sûr. Oui.
Merci, Philippe, qui était à la régie générale, n'est-ce pas? Et on va se quitter comme d'habitude en musique avec un extrait, donc le troisième extrait de Sota Salta. Ça s'appelle Le Camélon. On vous dit de très très bonnes lectures. On vous souhaite de très très bonnes lectures.
Oui.
Et puis
oui.
On vous dit
au
mois prochain.
À la prochaine fois.
À bientôt.
Au revoir.
Léon, le petit caméléon, est un animal très glouton. Avec sa longue langue élastique, il gobe sauterait les moustiques. Il gobe sauterait les moustiques. Il roule de gros yeux globuleux. Certains le trouvent très disgracieux. Blep, sonne lila camélion, t'es Léon. Blep, sonne lila camélion, t'es Léon. Blep, sonne lila camélion, t'es Léon. Blep, blep, blep. D'une grenouille, il est amoureux. Sa grande bouche le rend tout fiévreux. Il va soudain pour l'embrasser. Elle se recule tout horrifiée. Ciel, il veut me manger tout cru. Il se prend pour le perlus du cru. Blep, sonne lila camélion, t'es Léon. Blep, sonne lila camélion, t'es Léon. Blep, sonne lila camélion, t'es Léon. Blep, blep, blep. Le petit Léon a disparu. Dans son logis, il vit reclus. Sa grande langue, il ne la sort plus. La grenouille n'en a pas voulu. Triste, il se laisse mourir de faim. La peau toute grise, bientôt la faim. La forêt se retrouve infestée d'insectes et de mouches par milliers. Ça pique, disent les bêtes affolées. Grenouille, grenouille, va le chercher. Grenouille, va le chercher. D'un bond, grenouille saute dans son lit. De joie, le petit lion rougit. Blep, dit le petit caméléon, Léon. Blep, dit le petit caméléon, Léon. Blep, dit le petit caméléon, Léon. Léon fait sa magie, se parle ses plus belles. au gré de ses humeurs. Blair, le petit caméléon, chaque soir près de l'étang, ces caméléons qu'on attend, la grenouille agite sa baguette, le petit léon fait sa vedette, la forêt au complet assiste au plus beau feu d'artifice.